Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En RCA, un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, dans le centre du pays, lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et des FACA, les forces armées centrafricaines. Un soldat des FACA a également été blessé. L'information a été confirmée à l'AFP par des sources à Bambari et à Bangui. Les affrontements ont eu lieu entre 16h et 19h temps universel dimanche. Un convoi des FACA en route vers Bangassou dans le sud-est, où l'armée centrafricaine va être redéployée selon l'ONU, a été pris dans ses combats à Bambari. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, UPC, selon une source de la gendarmerie de Bambari qui ajoute que plusieurs membres de ce groupe ont été tués durant les combats. Au Cameroun, poursuite des violences en zone anglophone, un soldat a été tué samedi lors d'une agression dans la région anglophone du Nord-Ouest, Jean-Roger Bion.
L'adjudant a été attaqué près de Furuawa, dans le département de Menchoum, alors qu'il était en patrouille avec un autre militaire qui n'a pas été blessé. Il s'agit d'un guet-apens, selon les sources régionales, qui n'ont pas précisé les motivations des agresseurs. Combats entre armées et groupes séparatistes, enlèvements et attaques diverses sont devenus presque quotidiens dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest frontalières du Nigeria. Selon le groupe de réflexion International Crisis Group, au moins 120 civils et 43 membres des forces de défense et de sécurité ont été tués depuis fin 2016, début de la crise dans ces régions qui s'est intensifiée fin 2017. Quelque 160 000 personnes ont dû fuir leur domicile à la suite de ces violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria voisin selon l'agence nigériane de gestion des urgences.
Au Tchad, les avocats, notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin, malgré un geste du gouvernement tchadien qui a limogé un gouverneur du sud du pays accusé de violence contre un avocat et ses clients relaxés. Le personnel judiciaire réclame désormais le limogeage des autorités militaires et civiles impliquées dans les violences et l'ordre des avocats du Tchad veut également organiser une marche le 16 juin à N'Djamena, la capitale, et boycotter une session d'assises prévue du 11 au 20 juin. Rappelons qu'après l'envoi d'une mission d'enquête du ministère tchadien de la Justice sur les violences contre l'avocat et ses clients, le président Idriss Déby Itno avait démis ses fonctions le 6 juin, le gouverneur du Logone oriental, Adam Nouki Tchafardine. Ebola en RDC, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a exprimé l'espoir dimanche de pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie de fièvre hémorragique qui a causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Et ce, 21 jours après une vaccination ciblée. Le docteur Tedros Adhanom effectue une visite d'évaluation de la situation dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, où l'épidémie a été déclarée le 8 mai par les autorités. Au 6 juin, 1 million de personnes ont été vaccinées contre cette maladie, à savoir le personnel soignant, les contacts des malades et les contacts de ces contacts. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976. RDC toujours, Luc Nkulula, l'un des membres fondateurs du mouvement citoyen pro-démocratie Lucha, a été tué dans l'incendie de sa maison dans le quartier Imbi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. La cause de l'incendie reste toujours inconnue, mais ses compagnons de lutte privilégient la piste criminelle et exigent des autorités une enquête rapide, transparente et crédible avec l'assistance internationale pour déterminer les circonstances du décès de Luc Nkulula. De Goma, notre correspondant Charlie Kasserika.
L'incendie à la résidence de Luc Nkulula est survenu au milieu de la nuit du samedi à dimanche alors qu'il était au lit. Au moment où la flamme s'est intensifiée, Luc n'a pas réussi à arracher les antivols de la fenêtre pour se sauver. Les voisins ont tenté sans réussir à éteindre les feux avant l'arrivée des pompiers qui sont arrivés avec un grand retard. Jusqu'à présent, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue, selon plusieurs témoignages des voisins rencontrés par la VOA Afrique au lieu du drame. Mais ses camarades de la Lucha privilégient plutôt la piste criminelle. Jivin Kombi est commis communicateur de la Lucha.
Nous sommes vraiment concernés, sidérés par cet événement, parce que nous ne comprenons pas comment il y aurait un incendie chez lui, alors qu'il n'y avait pas d'inflammable, il n'y avait pas non plus du courant électrique. Nous exigeons qu'il y ait une enquête. Lui, c'est un militant prêt à se battre debout au front. C'est pas de cette manière qu'il mourrait.
Au lieu d'Idei, c'est la consternation et effondrement pour tous les militants du mouvement citoyen. Rebecca Kabuo, militante et a reçu le prix Femme de Courage de la main de la femme de Donald Trump en 2017 et qui a mené la lutte aux côtés de Luc. Elle témoigne larmes aux yeux.
Il m'a appris beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à la Lucha, c'est lui qui m'a intégrée. Il m'a enseigné la non-violence. Il disait tout ce qu'il pensait du Congo. Il avait l'espoir. Je voyais ce Congo nouveau avec Luc, mais aujourd'hui, il vient de nous quitter. Je ne sais pas comment dire.
À 33 ans d'âge, Luc occupait depuis quelques mois la coordination de la nouvelle société civile au Nord Kivu. Son adjoint et porte-parole, Ishara Abutaragazi, se souvient du dernier programme que Luc venait de lui communiquer la veille de sa mort.
La dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'était hier, où il était en train de me rappeler qu'il faut convoquer tout le cordeau des territoires pour qu'on donne une nouvelle orientation. Et c'était lié par rapport au processus électoral qui est en cours dans notre pays. Il était en train de nous rappeler, nous devons jouer le bon rôle de la société civile, pas une société civile de suivre, il ne méritait pas. La moindre des choses serait de loger le bal au lieu de qu'il puisse mourir en train de se brûler, parce que là, c'est la plus forte souffrance qui soit pour le corps humain.
Luc Kulula est parmi les 5 membres fondateurs de la Lucha à Goma en 2012, plusieurs fois arrêté, mis en prison par la police. Luc est celui-même qui a parlé au nom de la Lucha lorsque le président Joseph Kabila reçoit 47 militants membres de ce mouvement citoyen pro-démocratie à Goma. Licencié en droit de l'université de Goma, l'activiste congolais était toujours disponible pour la VOA Afrique à toutes les demandes d'interview. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afrique du Sud, à un an des élections générales, le Congrès national africain au pouvoir a promis d'accélérer la réforme de la terre au profit de la majorité noire dépossédée pendant l'apartheid. Le gouvernement prévoit notamment d'exproprier sans indemniser pour restaurer la dignité des Noirs. Une entreprise à haut risque pour le pouvoir, affirme André Thomashausen, un analyste sud-africain qui se penche sur cette démarche.
Il y a une résistance très forte du secteur agricole. Le secteur agricole productif, il est pratiquement à 100% blanc. Et ces gens-là, évidemment, ils ont peur. Ils ont peur d'une interférence dans leurs droits acquis. Aussi, pas possible de faire des investissements quand il n'y a pas une certainté sur le titre de propriété. Ça va très facilement provoquer une crise dans la production agricole, même pour la sécurité alimentaire. Et pour l'ANC, c'est difficile pour Ramaphosa de trouver un compromis entre la gauche du parti et aussi le parti d'opposition d'extrême gauche, les lutteurs pour la libération économique de M. Malema. Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir passer une nouvelle loi avant l'élection de 2019. Ils vont essayer de faire quelques réformes, de donner un peu plus d'appui technique et d'appui de formation aux nouveaux propriétaires des terrains qui ont déjà été restitués pour essayer d'en faire un succès. Mais d'exproprier maintenant des terres qui sont productives serait un énorme risque économique.
André Thomashausen, professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, au micro d'Eric Manirakiza. Actualité américaine maintenant à Singapour, le président Donald Trump a affiché ce lundi son optimisme et aussi une forme d'impatience à la veille de son sommet très attendu avec le leader nord-coréen Kim Jong-un sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les enjeux du sommet avec Jacques Aristide.
L'arsenal nucléaire nord-coréen qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans sera au cœur des pourparlers après des décennies de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. À Singapour, invité à dire comment il envisage son tête-à-tête inédit de mardi, le président Trump a répondu « très bien ». Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, mais cette formule très vague laisse la place à d'innombrables interprétations. possible résultat concret évoqué par Washington, un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée, techniquement Nord et Sud, sont toujours en guerre. Avant de quitter le sommet du G7 au Canada samedi, M. Trump a affiché son optimisme sur cette rencontre, dont il espère faire un marqueur de sa présidence. De son côté, peu après son arrivée à Singapour, Kim Jong-un a rencontré le Premier ministre du pays, Lee Hsien Loong, qui a salué la décision courageuse et admirable d'organiser ce sommet.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.